26. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Paul tendit la main et plaida sa cause ainsi. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi de toutes les accusations portées contre moi par des Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions, je te prie donc de m'écouter avec patience. Comment je me suis comporté dès ma jeunesse, tous les Juifs le savent, puisque j'ai vécu dès le début au milieu de mon peuple à Jérusalem. Me connaissant depuis longtemps, ils savent, s'ils veulent bien en témoigner, que j'ai vécu en pharisien, selon le parti le plus strict de notre religion. Et maintenant, je suis traduit en justice parce que j'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Cette promesse, nos 12 tribus espèrent en obtenir l'accomplissement en rendant jour et nuit et jour avec ardeur un culte à Dieu. Et c'est à cause de cette espérance, roi, que je suis accusé par des Juifs. Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts ? Pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Juif de Nazareth, de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres, et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas, avec les pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres. Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste, aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Voilà pourquoi les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer, mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Alors qu'il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est au courant de ces faits et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. » Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi à l'exception de ces chaînes. » Quand Paul eut dit cela, le roi, le gouverneur, Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et se retirèrent. Ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. » Donc Paul commence en disant qu'il est heureux de pouvoir présenter son cas aux autorités romaines. Il devait se dire que c'était un accomplissement en partie de ce que Jésus lui avait dit. Le fait d'avoir déjà pu parler à Lysias, au peuple, à Félix, à Festus, et maintenant à Agrippa. Ça faisait vraiment partie de cette promesse que Dieu lui avait faite, qu'il utiliserait pour être un témoin devant le peuple, mais aussi devant les autorités, devant des rois. Et il commence par présenter sa vie avant Jésus, en expliquant qui il était, comment il avait grandi au milieu des Juifs, comment il faisait partie du parti des pharisiens, son activisme contre la foi en Jésus, le fait qu'il persécutait les chrétiens, Encore une fois, il parle de la foi chrétienne comme de quelque chose qui est en accord avec la foi juive, avec les paroles et les paroles des prophètes. Verset 8 est une question incroyable dans le sens où ça fait vraiment appel à la raison, et en même temps c'est aussi une question qui s'applique et qu'on pourrait poser à bien des gens de nos jours. Cette idée de dire, bon ben, si on est en train de parler de Dieu comme d'un être suprême qui a toute autorité, qui est tout puissant, qui a toute liberté, comment est-ce qu'on peut le limiter en disant qu'il ne peut pas ressusciter les morts? C'est une question de quelque part de logique, c'est-à-dire que soit on dit qu'on a un Dieu fini et limité et qui finalement n'est pas vraiment un Dieu, soit on dit que Dieu peut tout faire, et à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de limite, pas de choses qu'on doit pouvoir lui interdire, sauf les choses qui vont à l'encontre de sa nature même, de son essence même. Donc il nous parle de sa haine première de Jésus, de tout ce qu'il a fait contre les chrétiens. Il nous déclare implicitement qu'il était membre du Sanhédrin avec le fait qu'il a apporté son suffrage pour faire condamner les chrétiens. On a déjà mentionné ça. On a déjà mentionné le fait que ça supposait qu'il était sans doute à un moment dans sa vie marié. C'est pas ce qui est devenu sa femme, puisque plus tard dans ses lettres, il parle du fait qu'il était seul ou célibataire. Peut-être qu'elle l'avait quitté quand il est devenu chrétien, ou peut-être qu'elle est décédée à un moment ou à un autre. Et ensuite, il raconte sa conversion sur la route de Damas, la mission que Jésus lui a clairement donnée, de servir et de témoigner, de servir le message de Jésus, de servir Jésus, mais de témoigner de Jésus. Il parle du fait que Jésus l'a envoyé pour parler aux juifs et aux non-juifs, que ce n'était pas son idée, encore une fois. C'était quelque chose que les juifs lui reprochaient aussi, d'aller autant vers les non-juifs et de présenter le fait que Dieu avait un plan de salut pour les non-juifs. C'était quelque chose qui les énervait aussi, qui les fâchait. Il y a vraiment des choses assez denses dans ce passage. Par exemple, verset 20, quand il parle du fait qu'il a annoncé aux juifs, aux non-juifs, dans la Judée et partout dans le monde, qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. C'est un condensé de ce que Paul annonçait. On va voir un petit peu après. Où est-ce que c'est avant ? Quand Jésus, verset 18, quand Jésus lui dit « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » C'est une présentation condensée de l'évangile, que vraiment tout ce que signifie devenir chrétien, que nos yeux spirituels s'ouvrent, qu'on passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu, de recevoir le pardon des péchés par la foi en Jésus, et de recevoir un héritage parmi ceux qui sont mis à part pour Dieu, d'être assurés d'arriver au paradis. La réaction d'Agrippa nous fait penser à ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18. Donc 1 Corinthiens 1, verset 18, Paul qui parle et dit: en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Et donc, Festus qui lui répond: tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Mais Paul qui reste très posé, qui dit: je ne suis pas fou, ce sont les paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est au courant de ces faits. Et en quelque sorte, là, on a l'impression que Paul a déjà eu du temps pour parler avec Festus. Il a déjà présenté les choses à Festus, sans doute. Et en quelque sorte, il passe en adressant la parole à Agrippa, en lui disant « Tu crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Là, il le cible vraiment, il le prend comme cible directe pour essayer de le... de le toucher, de lui dire, de l'atteindre, de lui dire, écoute, je sais que tu connais les Écritures, tu connais les choses concernant la religion juive. Sans doute, comme on l'avait dit, c'était quelqu'un qui connaissait les choses religieuses de l'époque, qui était au courant de ce qui se passait dans le territoire et qui avait sans doute entendu parler déjà de Jésus et de la foi chrétienne. Et donc, Paul est en train de dire, tu connais les paroles, laisse-moi te montrer que Jésus répond à tout ce que les prophètes ont annoncé, qu'il est quelque chose de vrai, qu'il n'y a pas de preuve pour dire qu'il n'est pas ressuscité, de lui présenter tout le réquisitoire et de lui montrer toute la logique, tout le bon sens. On se souvient encore une fois de l'époque, de la proximité des faits, du fait qu'il restait encore des témoins de la vie de Jésus, que c'était encore dans le territoire, que les autorités religieuses qui étaient tellement contre la foi juive n'avaient jamais pu ou n'ont jamais pu présenter le corps de Jésus pour faire taire toutes les rumeurs qu'il y avait. Et donc il en appelle vraiment à la raison d'Agrippa. Et on se demande presque, là on a Agrippa qui dit « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Il a même presque quelque part, il est pas loin, il y a quelque chose là qui le titille spirituellement, qu'il est touché, mais lui aussi remet les choses à plus tard en quelque sorte, le rejette. Et on peut se dire que peut-être que c'était à cause de Bérénice et de ses amis en grande pompe avec lui qu'il se dit « Bon ben, je n'ai pas envie de perdre la face vis-à-vis d'eux, je n'ai pas envie de me retrouver comme Paul dans les chaînes. J'ai pas envie de perdre l'estime qu'il me porte. » On peut se dire qu'il craignait sans doute l'homme que Dieu, c'était encore une fois son autorité. Peut-être qu'il voulait aussi des pots de vin, ou peut-être que... Mais quoi qu'il arrive, malgré le fait qu'il ait été touché et qu'il était au courant de toutes les paroles et qu'il était sans doute très, très à même de dire si Paul avait été en train de raconter quelque chose de vrai, de raisonné, il a rejeté tout ça. Et encore une fois, on voit Paul qui présente un discours. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, au lieu d'être les gens autour de lui qui sont en train de l'accuser, c'est lui qui est dans les chaînes, qui est devant tout un auditoire de gens soi-disant dignes, qui présente le discours raisonné, le discours réfléchi, qui finalement leur met... c'est eux qui sont accusés, c'est eux qui sont sur le banc de ceux qui doivent se décider et se prononcer. Et il n'a pas reculé d'un poil, malgré le fait qu'il était plusieurs années dans les chaînes. Il présente exactement les mêmes arguments, il reste aussi résolu. Ici, on a vraiment le sentiment que c'est lui qui est libre et qui est fort dans sa manière de parler, qui est...
Oui, même Festus le reconnaît au 24. Mm-hmm.
Comment ?
Comment ? Sa grande érudition.
Ah oui.
Il a bien perdu, quoi. Il est toujours...
Mm-hmm. C'est intéressant, j'avais plusieurs commentaires de Spurgeon, donc qui était un grand évangéliste anglais, qui dit par exemple que c'est intéressant parce que la vraie dignité, c'est d'avoir les chaînes sur les bras plutôt que d'avoir des chaînes sur son âme. Et qu'ici, Paul est enchaîné physiquement, mais il est libre spirituellement, et c'est les autres qui sont enchaînés spirituellement, mais qui sont libres devant lui. Et il dit aussi que ce serait quelque chose de complètement différent si l'homme était assez sage pour voir que c'est l'honneur, c'est de souffrir pour Christ, que de perdre quelque chose, d'être enchaîné pour la vérité est un gain. Et il a aussi des commentaires par rapport à cette idée de peur, de dire combien de d'hommes lâches seront damnés à cause de leur peur de l'homme, qui préfèrent mourir, laisser leurs âmes périr, plutôt que de dire à un homme qu'on n'en a rien à faire de son mépris, et de dire qu'il vaut mieux craindre Dieu que de craindre le mépris des hommes. C'était intéressant, en Allemagne, on a eu un enseignement d'un pasteur sur un passage dans Luc, qui est fort à propos avec ça. hein, où Jésus parle à ses disciples, Luc 12. Il parle à ses disciples concernant l'hypocrisie. Il dit « Avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Ne vantons pas 5 moineaux pour 2 petites pièces, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. Quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Et là, pour moi, on a vraiment une description de la situation dans laquelle se trouve Paul. Jésus commence en parlant de l'hypocrisie. L'hypocrisie qui est un fruit et la conséquence de la peur des hommes, où on a envie de masquer qui on est réellement pour plaire à l'homme, plutôt que de craindre Dieu qui voit tout, qui voit derrière les masques, qui voit toutes les choses qu'on essaie de garder en secret. Et Jésus nous dit, mais vous, c'est Dieu que vous devez craindre. Lui peut faire plus que vous tuer physiquement. Il vous connaît, il connaît le nombre de vos cheveux. Il dit aussi, c'est important de le reconnaître devant les hommes, parce que c'est ça qui va, Jésus promet de vous reconnaître devant Dieu au paradis. Et cette idée de blasphème contre le Saint-Esprit, c'est cette idée de dire qu'on refuse l'effet du Saint-Esprit qui nous convainc de la vérité, qui nous convainc du péché. Et en quelque sorte, ici, avec Festus et Agrippa, c'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils admettent que quelque part, ils sont touchés, que l'Esprit est en train de leur convaincre qu'il y a un fond de vérité, qu'il y a quelque chose là. L'Esprit est en train de les toucher. Et eux, ils rejettent l'Esprit, ils rejettent cette influence de l'Esprit dans leur vie, dans leur cœur. Et puis cette idée, quand Jésus finit là avec l'idée que quand vous vous retrouverez devant les synagogues, les magistrats, les autorités, c'est exactement là où Paul est. Il est devant les autorités, devant les magistrats. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de guider Paul dans ce qu'il dit pour toucher les gens, pour bouger dans l'auditoire. Et malheureusement, il refuse l'effet, l'influence, ce que l'Esprit est en train de parler à leur cœur. Et donc, Agrippa et ses convives partent. Ils admettent l'intégrité de Paul quand il dit « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ». La vérité même, mais il rejette l'évangile. On voit qu'il dit, bon ben, il aurait pu être libéré, je vois pas de problème dans tout ce qu'il raconte. Il n'y a pas de raison qu'il soit condamné. Mais dans la loi concernant les citoyens romains, une fois qu'ils en avaient appelé à César, c'était un petit peu final, il fallait qu'il passe devant César, et donc il avait plus la liberté de le libérer. On peut même se demander à ce moment-là, c'est-à-dire, bon, ben, est-ce que Paul a eu raison d'en appeler à César, puisqu'il aurait peut-être été libéré. Mais ça correspond à la promesse que Jésus lui a faite plus tard d'aller à Rome. Et ça correspondait aussi au désir de Paul. On le voit dans le livre de Paul aux Romains, qu'il disait qu'il avait vraiment à cœur de venir les voir, de passer du temps avec eux, parce qu'il avait entendu parler d'eux. Voilà, donc... Les chapitres 27 et 28 qu'on va voir mardi soir, on va voir son voyage et son arrivée à Rome. Donc pour moi, ce qui ressort un petit peu là, en relisant ce passage qui semble un petit peu, peut-être un petit peu léger en application pour nous, c'est vraiment pour moi cette idée de dire est-ce qu'on est sensible Est-ce qu'on a peur de Dieu? Est-ce qu'on craint Dieu dans ce qu'il nous parle dans nos vies, dans notre témoignage vis-à-vis des hommes, dans notre acceptation de ce qu'il a à nous dire, des choses sur lesquelles il veut nous corriger, sur sa volonté, sur ces choses-là. Est-ce qu'on a peur de lui? Est-ce qu'on est en train de chercher à agir vite aussi? Ou est-ce qu'on essaie de remettre les choses à plus tard? On essaie de dire t'as raison, mais je verrai ça demain. Je pense qu'on peut peut-être prendre un petit temps de prière en petit groupe et puis prier que le Seigneur nous montre où on tarde à répondre, où on est en train de remettre les choses à plus tard. Que Jésus nous montre ces choses-là dans nos vies et qu'on soit plus prompt à réagir face à l'Esprit et face à ses corrections, à ses encouragements, face à sa direction. Ézéchiel 3, versets 1 à 11, qui est un passage où il parle de la volonté du Seigneur, de la parole du Seigneur, du fait qu'il a donné sa parole au prophète à Ézéchiel et que les fils de le peuple d'Israël ne va pas l'écouter. Et verset 10, il lui dit, « Fils de l'homme, que ton cœur accepte et que tes oreilles écoutent toutes les paroles que je te dirai. » Donc ça parle de la volonté du Seigneur et du fait qu'on doit la prendre à cœur et l'écouter. D'autres questions ou commentaires sur ce qu'on a vu? Donc mardi, ça va être notre dernier cours jusqu'au début février, là, la deuxième semaine de février. J'avais quelques, on va dire, devoirs que je pensais qui pourraient être bons de faire sur le livre des Actes, un petit peu pour revenir sur le livre complet que je voulais vous donner. Alors si vous voulez, c'est un petit peu, c'est optionnel, mais si vous voulez me les donner mardi ou même après, pour que je le regarde et que je corrige. Il y avait trois choses auxquelles je pensais. La première, c'était un petit peu pour vous d'écrire peut-être une demi-page un petit peu les choses qui vous avaient le plus marqué ou les choses où vous sentiez des applications pour votre vie, des choses que vous deviez prendre à cœur dans le livre, dans l'étude qu'on a eue jusqu'à présent. La deuxième chose auquel je pensais, c'était peut-être un petit peu de re-résumer le livre, pareil, peut-être en une demi-page, un petit peu faire un plan du livre, les différentes étapes, peut-être mettre pour certaines des étapes, s'il y avait des versets importants qu'on a regardés, juste de revenir dessus pour un petit peu se remettre tout ça. C'est des choses un petit peu lourdes, hein, parce qu'il faut un petit peu revenir sur le, il faut un petit peu revenir sur tout le texte, mais je pense que c'est bon parce que c'est le genre de choses qui permet de vraiment cristalliser les choses dans notre esprit et de vraiment affirmer les choses. Et la troisième chose qui est peut-être un petit peu, ça aurait été peut-être mieux de le faire pendant qu'on faisait l'étude, mais c'est une idée qui est pas la mienne, mais que j'ai eue en parlant un petit peu avec des gars quand j'étais en Allemagne qui faisait lire le livre des Actes et demander aux gens avec qui ils faisaient l'étude de noter à chaque fois que le livre mentionnait la prière et de noter chaque référence à la prière et de noter ce pourquoi les gens priaient et le résultat pour voir l'effet de la prière, pour voir la manière dont Dieu utilise la prière dans tout le livre. Voilà, donc si vous voulez faire ces trois choses-là, voilà.